Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Paul Kaufmann, vous publiez aux éditions Fayard un livre intitulé « Courlande ». Alors, rien sur le livre, sur la couverture, dans la quatrième de couverture, ne désigne s'il s'agit d'un essai, d'un récit, d'une œuvre de docufiction, d'une enquête, d'une quête. Vous dites que vous êtes parti à la recherche d'un nom dans l'introduction, du souvenir d'un amour de jeunesse aussi pour une jeune courlandaise rencontrée quand vous aviez 20 ans au Canada. Alors, de quelle manière pourrait-on qualifier votre livre ?
Moi, je le qualifie de récit de voyage. C'est absolument pas un roman. C'est un livre où je me mets en scène. L'histoire est tout à fait, authentique. Quand j'étais coopérant au Québec, à l'époque, il était obligatoire de faire son service militaire en France, et on avait la possibilité de le remplacer par la coopération dans des pays francophones, et c'est ainsi moi que j'étais envoyé au Québec, et là j'ai connu une jeune Canadienne anglaise, mais en fait elle était courlandaise, et évidemment moi j'ai affecté de savoir où se trouvait la Courlande. Mais ça m'a été assez difficile au départ. Et j'ai aimé d'emblée la consonance de ce nom à la fois étrange, familier, poétique, un peu mystérieux. Et je croyais, au fond, d'ailleurs, beaucoup de gens qui commencent ce livre sont persuadés que la Courlande est un pays rêvé, est un pays inventé, un pays, une sorte de grand duché d'opérette, une sorte de province fantaisiste de l'Europe. D'une certaine manière, d'ailleurs, ces gens-là n'ont pas tout à fait tort, parce que à cause de cette consonance là qui fait que on a l'impression que c'est un pays de nulle part, mais il faut bien dire que ce pays rêvé a eu une existence. Enfin, à une existence bien réelle. Et son grand intérêt, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que c'est un pays qui a été, c'est une des quatre provinces de la Lettonie actuelle, c'est la façade maritime de la Lettonie, qui a cette particularité d'avoir été une zone interdite pendant toute la période soviétique. Et en 1991, lorsque la Lettonie est devenue indépendante, eh bien, la Courlande a ressurgi absolument intacte, avec ses plages désertes, ses châteaux en ruines, et puis ces villages déserts. J'ai dit dans ce livre que c'était le pays de la désolation heureuse, mais c'est à la fois ce souvenir. Cette histoire de jeunesse, cet amour de jeunesse qui m'a incité à aller là-bas, c'est la consonance du nom, et puis aussi une occasion tout à fait normale, prosaïque, j'allais dire. Un ami journaliste me propose d'aller là-bas faire un reportage, et donc... je me dis, tiens, ça va être une occasion pour moi de connaître enfin ce pays. Donc, les bases de ce livre, on pourrait dire qu'elles sont assez, assez minces.
Oui, les bases sont minces. Le pays est une province de Lettonie, comme vous dites, le pays de la désolation heureuse. En entrée de jeu de votre livre, vous citez un texte de René Puot qui dit « La Courlande semble un doux pays voué dès l'origine du monde à la paix virgilienne et où il ne s'est jamais rien passé ». Alors c'est un peu déjà, et même le nom du pays, Courlande, et le titre que cela donne à votre livre, on pense un peu à du Julien Gracq. C'est un peu ce type-là de titre et de sonorité et de pays aussi un peu désolé.
Oui, un peu désolé, mais en même temps, c'est vrai que lorsque je suis parti là-bas, moi, je pensais que c'était un blanc sur la carte. Et en fait, en approfondissant les choses, je me suis aperçu que cette Courlande était en vérité un véritable concentré de l'histoire européenne, avec ses racines multiples et concurrentes. Vous voyez, une sorte de patchwork, parce que c'est un pays, la Courlande, qui a vécu à l'ombre de voisins prédateurs, on pourrait dire, la Russie, la Suède, la Pologne et la Prusse. Et pendant 230 ans, eh bien, ce grand-duché a quasiment été indépendant, enfin en tout cas pratiquement autonome. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, de penser que ce petit pays, à l'ombre de ses grands voisins, a eu donc une existence propre et a montré un dynamisme économique très rare pour l'époque, puisque le duc de Courlande envoyait des bateaux au loin, par exemple à Tobago. Il y a eu un comptoir courlandais à Tobago, Trinidad et Tobago aux Antilles, et puis une île qui se trouve à l'embouchure du fleuve Gambie. Une partie de la flotte de Louis XIV a été construite sur les chantiers de Courlande. Donc, encore une fois, ce nom un peu vague, poétique, a une histoire extrêmement, extrêmement riche. Je dirais même que c'est, quand on l'examine de près, c'est vraiment c'est usé par l'histoire et aussi, d'ailleurs, par la littérature. C'est ce qui m'a intéressé, c'est la raison pour laquelle je cite un certain nombre d'auteurs.
Blaise Cendrin, par exemple, est parti de oui. là pour New York en 1911, dites-vous. Ben,
oui, exactement. On mesure mal que, par exemple, tous ces juifs, tous ces immigrés qui se sont enfuis de Russie, ils sont tous partis du port courlandais de Libao, qui s'appelle aujourd'hui Liepaja. Et c'est de cette façon-là que Blaise Cendrars est parti lui aussi pour New York à partir de ce port. Donc à partir de ce port aussi s'embarque la deuxième escadre russe qui va se faire écraser à Tsushima après un voyage de 8 mois et demi. Le péril jaune, c'est une expression qui est née de cette défaite. Donc c'est russe, cette flotte russe est partie de Courlande, hein, et c'est une aventure absolument incroyable, avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, remonter le détroit de Malacca et en mer de Corée l'attend l'amiral Togo qui va écraser cette flotte russe. Ça a été un moment de l'histoire européenne très très important. Avant 1914, c'est le grand événement de cette bataille de Tsushima.
Alors, comme vous l'avez dit, le prétexte de l'écriture de ce livre, c'est un article qui vous est commandé, qui d'ailleurs ne sera jamais ni écrit ni publié, et puis même disparaîtra. Alors, je me suis demandé, en lisant cet épisode-là, donc cet article qui ne verra jamais le jour, si finalement vous n'étiez pas en train d'explorer une nouvelle forme de journalisme qui est un journalisme à la première personne, comme le pratiquait Albert Londres, ou comme c'est-à-dire que on a besoin davantage maintenant pour remettre l'histoire d'Europe, par exemple, dans ce cas-ci, dans son contexte, d'avoir un auteur, un journaliste, un investigateur qui écrit à la première personne ce qui lui arrive, ce qu'il rencontre. Et vous faites des rencontres assez, assez étonnantes. Est-ce que c'est cette approche-là que...
Oui, alors, on pourrait dire, oui, que c'est absolument pas péjoratif pour moi, bien au contraire. Je suis journaliste et cette démarche journalistique, je l'assume totalement. Malgré tout, c'est pas tout à fait une démarche journalistique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que y a quelque chose qui n'est plus donné aux journalistes aujourd'hui, c'est le temps. Et moi, j'ai le temps. Et ça, ça change énormément les choses. Parce que à partir du moment où vous partez, où vous avez vous disposez de temps, eh bien, ça vous laisse la possibilité, ça vous donne une extrême ouverture aux rencontres, au hasard. Je ne sais plus qui a dit voyager, c'est conquérir le hasard. Et là, le hasard me conquiert à maintes reprises, puisque ce temps qui m'est donné. Et c'est vraiment le luxe, le temps, hein, pour moi, et je pense que c'est le vrai luxe aujourd'hui, le temps. Et donc, à la différence d'une démarche journalistique, moi, j'ai mon temps. Hein, je suis pas astreint, je suis pas un staccanoviste de l'information, ce qui est quand même le cas aujourd'hui. Hein. Les journalistes doivent produire, et c'est malheur à celui on peut contrôler aujourd'hui, celui qui produit médiocrement. Hein. Je parle en quantité, la qualité, ça c'est une autre affaire. Mais voilà, donc oui, c'est ça, à la première personne, en effet. Mais je dis aussi. Alors, il y a peut-être parfois une ironie à l'égard de notre métier, c'est que je dis, et ça m'a beaucoup frappé quand je faisais ce métier, je me disais, finalement, on ne parle que dans nos papiers, dans nos articles. Tout ce qui est important, essentiel, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, il y a toute une périphérie. Enfin, pour moi, c'est pas une périphérie, mais les rencontres. L'article de journal obéit à des lois très très strictes. C'est très formaté et partant pour un reportage, il y a toutes sortes de choses qui se déroulent, souvent cocasses d'ailleurs, mais on n'a pas le droit de les raconter. Alors peut-être aussi parce que c'est le jeu. Le jeu est haïssable, le moi est haïssable, et dans ce sens-là, en effet, là, j'ai tout à fait assumé le voyage à la première personne.
Mais en évoquant Albert Londres, je pensais davantage d'ailleurs à l'écrivain qu'au journalisme, parce que c'est plus de la littérature, c'est plus un travail d'écrivain qu'un travail de journaliste, que de se laisser, comme vous dites, faire le contraire du type de journalisme traditionnel dont vous dites que le paradoxe est qu'il faut taire l'essentiel, c'est-à-dire l'inattendu. Là, vous êtes ouvert à l'inattendu, à la rencontre, et d'ailleurs vous rencontrez des personnages assez inouïs, comme le résurrecteur, comme le professeur qui vous accompagne, comme... cette femme dont j'ai oublié le prénom, Gwenaëlle.
La lectrice.
Hein. La lectrice. Donc, ce sont toutes des personnes à partir desquelles vous pouvez raconter ce qu'il vous arrive au quotidien, mais à partir de là, explorer, parce que c'est le jeu, toute la complexité du monde ou la complexité de l'histoire contemporaine de l'Europe. Est-ce que c'est un travail alors d'écriture, d'écrivain, de fiction qui permet de mieux comprendre les événements?
Vous savez, moi, j'ai pas eu besoin de. J'insiste souvent là-dessus. Moi, j'ai jamais écrit de roman parce que j'estime que la réalité est bien plus romanesque que ce que prétend imaginer le roman. Je crois qu'en se laissant porter, en effet, il y a chacun d'entre nous peut le constater. Toutes ces rencontres qu'on peut faire. Qu'on peut faire en voyage, mais ces personnages-là, parfois sont en effet des médiateurs. Par exemple, vous avez cité je rencontre un Allemand qui a retrouvé la tombe de son père qui combattait dans la Wehrmacht pendant la dernière guerre, et alors lui, il parle le letton parce que pour moi, le problème lors de ce premier voyage que je raconte, ça a été un problème qui se pose à beaucoup de gens lorsqu'on voyage, c'est le problème de la langue. Et alors évidemment, on peut parler anglais, mais personne ne parlait anglais à cette époque-là. En 1997, c'était la seule langue étrangère qui était parlée, c'était le russe, quoi. Donc il y a un certain nombre de choses qui m'échappaient dans ce pays. C'est vrai vrai qu'on peut partir à l'étranger, rien dans les mains, rien dans les poches, mais il y a un certain nombre, il y a des signes qu'on n'arrive pas à traduire, à déchiffrer. Donc c'est cette personne-là est là aussi parce qu'elle connaît bien l'histoire de la Courlande, l'histoire récente, la dernière guerre mondiale est une oui, une sorte de médiateur, la lectrice qui est à Liepaja, oui, elle est là. Mais j'en ai rencontré d'autres après, parce que j'ai fait d'autres voyages. Oui, tous ces personnages-là, bon, c'est toujours pareil. Une rencontre superficielle où il y a... Ces gens-là peuvent apparaître, ces personnages-là peuvent apparaître banals, mais dès qu'il y a le temps, l'écoute, il surgit toujours quelque chose d'inattendu. Et bon, il y a une petite galerie, en effet, de personnages que je découvre au cours de ce voyage, mais toujours avec cette volonté de mise en correspondance, parce que j'essaie de décrire les Courlandais. Comment peut-on être courlandais aujourd'hui ? Mais je le fais aussi en rapport avec ce que nous sommes, nous, Français. Parce que perpétuellement, il y a... j'essaie de les décrire, les courlandais. Là, par exemple, dans ces grandes surfaces, comment un courlandais consomme ? Eh bien, il consomme absolument pas comme nous. Nous, on est des Européens fatigués, un peu blasés. Eux, ils ont gardé une certaine innocence. Je dis qu'ils sont entre le désirable et l'indispensable et ils n'ont pas encore... comme nous, la mélancolie du rassasiement. Tout cet aspect-là m'a beaucoup intéressé. J'ai pas voulu faire un voyage dans le passé, mais aussi un voyage dans notre présent, et puis dans un présent qui est européen, parce que les Courlandais ont voté là au Parlement européen, comme les Lettons. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait, de décrire un pays qui est un pays de confins, mais qui appartient à l'Europe, hein, et qui mais en même temps qu'il y a une, c'est l'Europe, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a alors justement, je suis perpétuellement dans mes livres que je construis comme des romans policiers à la recherche d'une pièce manquante. Et je me disais, pour la Courlande, qu'est-ce qui manque à la Courlande ? Mais en même temps, il y a ce château, il y a ces églises, c'est chez nous, quoi. Mais il y a quelque chose qui manque, quelle est cette pièce manquante. Donc voilà, j'essaie de retrouver cette pièce manquante.